L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Comme vous avez remarqué, on se sent dans le rose aujourd'hui. Amen. Parce que c'est une journée spéciale, la fête des mères. Et j'aimerais ça inviter maintenant notre sœur Annabelle Sourdril qui va venir prêcher la parole de Dieu. Donc, Annabelle, je te laisse la place. Je vais juste vous inviter à étendre vos mains. On va prier pour notre sœur Annabelle. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, encore une fois, et on veut te remercier, Seigneur, pour ta présence qui est ici parmi nous. Et on te remercie pour notre sœur Annabelle, qui se rend disponible pour livrer le message que t'as déposé dans son cœur. On déclare maintenant, Seigneur, ton onction de la tête aux pieds sur notre sœur Annabelle. Merci de remplir sa bouche. On a prié au nom de Jésus. Amen.
Rebonjour. Alors, attendez un petit instant. Donc, déjà, bonne fête à toutes. Bonne fête des mères. Et puis, comme le pasteur Joël l'a dit, bonne fête aussi à celles qui n'ont pas d'enfants naturels. Parce que je crois qu'il y a plein de mamans spirituelles ici. Et c'est aussi important qu'une maman naturelle. Je ne souhaite pas une bonne fête à ma maman, car ce n'est pas encore la fête des mères en France. Mais je vous souhaite à vous aussi, maman sur Internet, une bonne fête. Et puis si vous êtes présent et présente sur Internet, allez-y, laissez des commentaires parce qu'on vous entend pas ici dire Amen, Alléluia. Donc c'est encourageant. Alors sinon, quand je préparais ce message, même avant de le préparer finalement, ce que j'avais reçu, c'était une parole d'encouragement, une parole pour vous fortifier, pour vous encourager, pour que vous ne soyez plus fatigués. Je pense que la fatigue, c'est un des grands fléaux de notre société. Nous sommes des gens fatigués. Mais à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus fatigués, puisqu'il y a une clé. Mais nous sommes très souvent et trop souvent fatigués, complètement pris dans le flot de nos activités. Nous vivons dans une société qui est très très active, mais aussi très fatiguée. Et les gens se fatiguent. On vit plus longtemps, donc on est fatigué encore plus longtemps. Donc ça rend la vie encore plus longue et plus difficile finalement. Et c'est très très désagréable d'être fatigué. Moi je déteste être fatigué. Et j'aime beaucoup dormir. Et d'ailleurs, si je me couchais maintenant, je pourrais me réveiller demain sans aucun problème dans 24 heures. J'ai déjà dormi 23 heures. Imaginez à quel point on peut être fatigué quelquefois. Mais Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à produire. Dieu nous appelle à être réveillé. Dieu nous appelle à être en forme et en santé et à pouvoir accomplir des choses pour son royaume. Dieu ne nous appelle pas à dormir 23 heures parce qu'il resterait plus qu'une seule heure dans le jour pour faire tout ce que vous avez à faire. Et ce serait très difficile. Et là, d'ailleurs, petite parenthèse, il y a beaucoup de parenthèses. C'est un message pour vous, mesdames, pour vous encourager, mais c'est aussi pour vous, messieurs. Alors, ne fermez pas vos cœurs, ne fermez pas vos oreilles en vous disant, ah, c'est un message de femme aujourd'hui, un message de petite madame, parce que je suis une petite madame, comme le pasteur Joël l'a dit. Mais j'ai un grand Dieu. Donc, ne fermez pas vos oreilles, c'est aussi pour vous ce message, puisque les hommes aussi sont sujets à la fatigue, les hommes sont sujets à la superactivité de notre société. Donc, on peut aller dans Exode 18:13. Exode, oui. Exode 18:13. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit « Que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Et en fait, j'ai trouvé que c'était une bonne image de notre vie. On se tient souvent là devant, pas devant le peuple, mais devant des problèmes, des défis, des questions, des doutes, des activités, etc. Devant tout un tas de choses, la famille, le travail, même l'église. L'église, ça peut devenir un poids dans votre vie, un poids. Le service à l'église, ça vient juste rajouter quelque chose de lourd dans votre activité, dans votre emploi du temps. Oh oui, c'est vrai, demain je vais à l'église. Oh! Et c'est moi qui fais la garderie. Oh, malheur, malheur. Et là, j'ai déjà pas passé une semaine assez chargée, assez difficile. Il faut encore que je serve à l'église. Il faut encore que j'aille à l'église. Demain, je ne pourrai pas dormir. Demain, je ne pourrai pas profiter de ma journée de congé. Et je crois que nous devons changer nos mentalités par rapport à ça. Je crois que votre service et votre présence ici, ce matin et le dimanche matin en général, ne doit pas être une corvée. Votre présence ici est un honneur, un privilège de pouvoir venir louer Dieu, de pouvoir venir dans sa présence, de pouvoir être entre frères et sœurs. Ça ne devrait pas être un moment de fatigue, un moment qui vient aspirer toute votre énergie, mais au contraire, ça doit être un moment où quand vous ressortez, vous êtes revitalisés, vous êtes en forme, vous êtes « Oh, ça m'a fait du bien, je suis vraiment en forme, je suis moins fatiguée que quand je suis arrivée. » Et tous les dimanches, avoir cette même expectative que vous allez toucher, que vous allez être rempli, que vous allez ressortir d'ici plus jeune que quand vous êtes rentré, que vous allez avoir reçu le plein d'énergie pour aller du lundi jusqu'au samedi de la semaine d'après. Et que le dimanche n'est pas un jour maudit, un jour où vous êtes obligé de venir à l'église, un jour où vous êtes obligé de servir, un jour où vous êtes obligé de faire des choses pour les gens. Horrible, horrible, horrible. Je déteste le dimanche, je déteste le dimanche. Si seulement je n'étais pas chrétien, si seulement je n'avais jamais entendu ça, le dimanche je pourrais dormir comme tous les autres gens de la planète. Je pourrais juste me prélasser et profiter de mon jour de congé. Change ta mentalité aujourd'hui. Mais il y en a, vous n'avez pas changé votre mentalité encore. Mais c'est pas grave, d'ici 30 minutes, vous l'aurez changé, j'en suis sûre. Donc, souvent, on est comme Moïse, on est là, on se tient devant tout un tas de problèmes, de choses, de questions, de défis. Et puis, on se fatigue. Finalement, au bout d'un moment, on fait juste répondre aux besoins. Répondre aux besoins. Un besoin est répondu, hop, on passe à l'autre besoin. Hop, ce besoin-là est répondu, on passe à l'autre besoin. Et c'est sans fin, sans fin. Tu regardes et à perte de vue, il y en a des besoins, il y en a des questions, il y en a des défis. Et vous le savez comme vous. Et le matin, quelquefois, il y en a, vous vous levez. Et là, dès que vous ouvrez vos yeux, vous voyez cette liste de défis devant vous qui n'en finit plus. Et votre seul répit, c'est de dormir. C'est le soir, quand vous vous endormez, c'est votre seul répit. Et il y en a même qui n'ont même plus ce répit-là, puisque ça vient manger vos nuits, ça vient manger votre sommeil. Vous n'arrivez plus à dormir. Je ne suis pas comme ça. Il n'y a absolument rien qui m'empêche de dormir. Donc, et gloire à Dieu pour ça. Mais donc, on est comme ça, mais Dieu nous appelle à être autrement. Dieu nous appelle à faire autre chose que de la maintenance, que de l'entretien. Dieu nous appelle à dominer. Dieu nous appelle à créer. Et comment ça se passe? Et je pensais à tout ça, oui, déchargez-vous de vos fardeaux, etc. Et c'est vrai, 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 de vrai. Mais là, j'étais en train de lire ma Bible. Ça m'arrive. Et là, je suis tombée sur le sabbat. Mais Dieu a créé le sabbat. Dieu a instauré un principe, le sabbat. Et le sabbat, on en parle moyennement maintenant, puisque ça fait un peu religieux de parler du sabbat ou du shabbat. Ça fait peut-être un peu mieux. Mais en tout cas, on en parle peu maintenant du sabbat. Le sabbat, c'est quoi? C'est un vieux truc. C'est le jour où on n'a pas le droit de travailler, le jour où on n'a pas le droit de cuisiner, le jour où ceci, le jour où cela. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement intéressant que Dieu ait instauré ce sabbat. Dieu avait prévu que l'homme aurait besoin de se reposer, mais Dieu avait aussi prévu que si nous n'avions pas ce rappel, que s'il ne prenait pas le temps de même le mettre dans ses 10 commandements, nous l'aurions oublié dans nos activités. Nous serions tenus là, comme Moïse, juste à encaisser tous les problèmes, à essayer de répondre, de répondre, de répondre, de répondre. Mais le but de Moïse, l'appel de Moïse, n'était pas de répondre à toutes les questions du peuple, n'était pas de trancher le oui, le non, du quoi, du pourquoi, du comment. Non, l'appel de Moïse était d'amener le peuple dans la terre promise. C'était ça l'appel de Moïse. Et si Moïse était resté là à répondre à tous les problèmes et qu'il n'avait pas écouté le conseil de son beau-père, Moïse serait mort assis sur sa chaise, et puis voilà, ça se serait terminé. Mais là, Moïse a entendu la voix de Dieu. Moïse a entendu le conseil de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que je dois faire, et ce n'est pas ça que je dois faire. Ce n'est pas ce à quoi je dois passer tout mon temps. Je dois préparer ce peuple pour aller dans la terre promise. Et je dois former Josué pour que lui puisse prendre la relève aussi. Et tout ça faisait partie de l'appel de Moïse. Mais si Moïse était resté assis, Moïse serait juste mort sur sa chaise. Et aujourd'hui, c'est un message pour que vous vous réveilliez, pour que vous vous leviez de votre chaise et que vous accomplissiez ce à quoi Dieu vous appelle réellement. Vous avez tous reçu un appel spécifique pour votre vie. Et on peut trop souvent se perdre dans nos activités, dans nos vies, dans tout ce qu'on a à faire. Et puis ça semble tellement, tellement loin. Et puis tout semble important, tout semble urgent. Et tout semble que si on ne le fait pas, ça ne va pas marcher. Si on ne le fait pas, personne n'aura ses réponses. Le peuple n'aura pas ses réponses. Je serai un mauvais dirigeant. Ils ont besoin de moi. Mais non, non. Enfin oui, ils ont besoin de vous, mais pas de cette manière. Votre famille n'a pas besoin d'une mère qui est constamment épuisée parce qu'elle court dans tous les sens, parce qu'elle répond à tous les besoins de tout le monde, de la famille, des voisins, des cousins, des frères, des sœurs, etc. Non, votre famille a besoin d'une femme qui est épanouie, d'une femme qui a assez d'énergie pour passer du temps de qualité avec ses enfants, du temps de qualité avec son mari. Voilà votre famille a besoin de ça. Et donc, quand je pensais au sabbat, oui, pour nous reposer, et comme je vous l'ai dit, c'était un rappel. Un rappel pour nous dire, tu existes, Seigneur, tu existes. C'est triste, c'est vraiment triste. C'est comme si t'es marié, puis ton téléphone tous les jours, t'as un rappel qui dit, tout, dis je t'aime à ta femme, dis je t'aime à ton mari, parce que de toi-même, t'es pas capable d'y penser. Mais l'homme est comme ça, malheureusement, avec Dieu. Si Dieu n'avait pas mis ce sabbat en place, si Dieu n'avait pas établi le principe du sabbat, nous aurions oublié Dieu. Le peuple aurait oublié Dieu dans le désert. Moïse est juste monté un petit peu. Ils ont construit un veau d'or. Imaginez s'ils avaient eu un téléphone avec un petit rappel. Je ne construirai pas de veau d'or. Ça les aurait sûrement gardé. Gloire à Dieu pour la technologie. Mais en tout cas, il y a le sabbat. Vous pouvez mettre le sabbat dans votre téléphone maintenant. Et on va aller dans Exode 16. Le principe du sabbat. Exode 16, on va lire de 22 à 29, mais je saute des passages aléatoirement. Donc, pour ceux qui suivent, tant mieux. Le sixième jour, ils requirent une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. C'est ce que l'Éternel a déclaré. Demain est le jour férié, le saint sabbat de l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. Verset 27. Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. 29, c'est pourquoi ils vous donnent au sixième jour de la nourriture pour deux jours. Donc, oui, le sabbat, c'est un jour. On va le voir pour l'instant comme un jour. On va parler du dimanche. Qu'est-ce que le dimanche pour vous? Et là, le peuple allait chercher sa manne, et puis, comme vous le savez, s'ils en prenaient trop pour une journée, ça pourrissait, il y avait de la vermine, etc. C'était dégoûtant. Le genre de truc que vous ne voulez pas manger. Mais, pour le jour du sabbat, la veille, ils pouvaient ramasser en plus pour le lendemain, pour pouvoir profiter de cette journée. Et c'est la même chose pour vous aujourd'hui. C'est comme si vous vous permettez de passer votre dimanche à travailler, à gagner de l'argent, et que vous en oubliez votre église locale. Vous en oubliez que le dimanche est un jour à part dans la semaine pour venir adorer Dieu dans sa maison avec les frères et les sœurs. Et si on était dans le temps de cette ancienne alliance, ça voudrait dire que finalement tout cet argent que vous avez, c'est de l'argent qui pourrit. Du moment où tu utilises cet argent, d'un seul coup, imagine, il se transforme en cafard, en un tas de cafards dans ta main. Ce serait exactement ça, ce serait de l'argent, l'argent sale, réellement sale. Tu pourrais pas le toucher, tu pourrais pas l'utiliser, comme le peuple ne pouvait pas manger la manne qu'elle essayait de gagner en avance. Mais par contre, le dimanche, il n'y avait rien. Il n'y avait même aucune provision. Ou alors, c'est comme si, pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire des cafards, c'est comme si le dimanche, tu allais travailler bénévolement. Tu disais, moi je vais travailler, mais ce jour-là, tu n'as pas de paye. Ce jour-là, tes heures ne sont pas comptées, tes heures ne sont pas payées. Tout comme ceux qui sont allés et qui sont sortis pour ramasser de la manne. Mais il n'y avait pas de manne ce jour-là. Parce que Dieu a dit, la veille, tu en ramasseras plus pour que ce jour-là, tu aies de quoi. Et Dieu a pourvu la veille pour que le dimanche, c'était pour que le dimanche vous ne manquiez de rien, pour que le dimanche ne soit pas le jour où tu vas chercher ta manne. Tu vas chercher ta manne du lundi au samedi, 6 jours sur 7. C'est beaucoup quand même, non? 6 jours sur 7, il n'en reste qu'un seul. Un seul que Dieu te demande de garder pour lui. Un seul. Les 6 autres jours, tu vas chercher ta manne. Les 6 autres jours, tu fais ta vie, tu fais tes occupations. Dieu sait qu'on a besoin de travailler. Dieu sait qu'on a besoin de faire le ménage, d'entretenir une maison, d'entretenir nos enfants, de les laver, etc., etc. Dieu le sait. Dieu ne veut pas que vous habitiez dans la rue, que vous soyez sale, que vous sentiez mauvais, que vos enfants ressemblent à rien du tout et qu'ils soient sales et qu'ils sentent mauvais aussi. Non, Dieu veut que vous en preniez soin. Mais Dieu veut aussi que vous vous rappeliez que lui est le premier dans votre vie. Il est le premier dans votre vie. Il vous réclame ce jour. Il vous réclame ce temps de mise à part. Il vous réclame d'être là et de lui faire confiance pour que vous croyiez que votre manne a déjà été acquise les 6 autres jours, que vous avez déjà reçu de quoi, c'est super québécois ça, que vous avez déjà reçu assez pour pouvoir vous permettre le dimanche de dire de 10h à midi, je serai dans la maison de Dieu. De 10h à midi, je mets ce temps-là à part pour toi par la foi, parce que je sais que tous les autres jours de la semaine, tu as pourvu, que tous les autres jours de la semaine, tu m'as déjà donné une provision assez abondante pour que de 10h à 12h, je sois dans la maison de Dieu. Mais c'est une décision, mais ne soyez pas comme ces travailleurs inutiles qui sont sortis le dimanche, ce n'était pas un dimanche, mais qui sont sortis le jour du sabbat pour aller chercher de la manne et qui n'y ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Et là, vous me dites, oui, mais bon, moi, je suis quand même payé pour de vrai. Le dimanche, mes heures sont payées et puis mon argent se transforme pas en un tas de cafards. Oui, c'est sûr. Dans le naturel, c'est clair, mais Dieu a quelque chose de plus que de l'or et de l'argent à te donner le dimanche matin. Dieu a une provision que ton travail ne te donnera jamais. Dieu a des stratégies, Dieu a des solutions, Dieu a une parole pour toi. Dieu a la promotion de ton travail commence ici. Oui, mais si je ne vais pas travailler le dimanche, on va croire que je suis paresseux, on va croire que je ne veux pas obtenir une promotion. Non, c'est Dieu qui te donne la promotion, et Dieu te donne la promotion quand tu fais ce qu'il te demande de faire. Il te donne la promotion quand tu es dans sa maison. Alors même que tu étais ici en train d'adorer et que tu aurais pu aller travailler, Dieu t'a donné une promotion. Dieu a vu ton cœur, Dieu a vu ton obéissance et tu as eu ta promotion. Donc, ça, c'est le sabbat un jour. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et là, il y en a qui disent, c'est génial, maintenant le sabbat, c'est du lundi au dimanche, on ne travaille plus. Dieu nous appelle à une vie de rien du tout, une vie de repos. Non, absolument pas, absolument pas. Mais Jean 1,17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce est venue, le sabbat n'est plus un sabbat de la loi, nous avons un sabbat de la grâce. Je ne sais pas si ça se dit réellement, mais en tout cas nous avons un sabbat de la grâce aujourd'hui. Et la grâce, qu'est-ce que ça a fait? Finalement, c'est qu'on est passé d'un format S, un format small, à un format XXL. Tout est plus gros, tout est en mieux, tout est meilleur, une alliance meilleure. On a tout en plus. Et là, il y en a qui disent, ben, c'est sûr, c'est ça quand même. Maintenant, le sabbat, c'est tous les jours. Le sabbat, on peut se reposer tous les jours. Dieu va me donner une provision sans que j'aille travailler. C'est ça la vraie grâce. Non, ce n'est pas ça la vraie grâce et ce n'est pas ça le sabbat de la grâce. Mais au moment où on est passé de cette ancienne à cette nouvelle alliance, oui, tout a été bonifié, tout a été amélioré. Et il y a des principes qui ont passé l'autre alliance. Je retrouverai mon mot plus tard. Ouais, bah bref. Et comme la dîme, par exemple. La dîme, oui, c'est un principe de l'ancienne alliance, etc. Oui, c'est vrai. Et puis, vous savez quoi? Ça a été amélioré, ça a été bonifié. On est passé à la dîme XXL. Ce n'est plus seulement un dixième, c'est ils étaient ensemble, ils mettaient tout en commun. Gloire à Dieu. Il n'y a plus personne qui derrière. Revenez les internautes, revenez. J'arrêterai de parler de ça. Donc, il y a un sabbat. Le sabbat, ça veut dire quoi? Repos et cessation d'activité. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Nous avons le sabbat de la grâce qui ne s'applique pas qu'au dimanche. Tu peux vivre le sabbat chaque jour de ta vie. Chaque jour de ta vie, avoir un repos et une cessation d'activité. une cessation d'activité, de tes activités de tous les jours, faire tout ce que tu as à faire, tu peux trouver un repos spirituel. Nous sommes fatigués, nous sommes occupés, nous sommes débordés, mais Dieu a créé le sabbat pour que tu puisses prendre un repos dans sa présence. Un repos comme lui l'entend, pas un repos, j'ai rien contre les vacances, et de partir au soleil et tout ça, absolument rien, mais... Dieu vous appelle à ne pas attendre les vacances, à ne pas attendre que de partir aux Bermudes ou à l'île Maurice ou je ne sais où, à Rio de Janeiro. En tout cas, Dieu vous appelle à plus que ça. Dieu vous donne un sabbat qui est disponible, disponible dans ta maison, disponible à ton travail, disponible dans ta voiture, disponible partout où tu es. Tu as un sabbat qui te suit partout et tu peux l'utiliser quand tu veux, tu peux l'utiliser quand tu veux, tu te sens débordé, tu sens que les activités commencent à te gagner, tu perds ta patience, tu perds ta joie, tu perds tout, t'es là, t'es juste débordé, t'as des mauvaises pensées contre tout le monde, tu détestes tout le monde, dès que quelqu'un te parle, t'as juste envie de lui dire que tu le détestes, t'as juste envie de lui dire de se taire et de s'en aller très très loin de toi, et tu vas être tout seul, oui c'est bon, tu vas être tout seul, je vais chercher la présence de Dieu, va chercher la présence de Dieu pour aller te ressourcer, et le sabbat de la grâce, comme je l'ai appelé, c'est rien de plus que la présence de Dieu. Allez dans la présence de Dieu tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. Parce que vous en avez besoin. Parce que nous sommes appelés à carburer à fond. Pas seulement, ça me fait penser à mon amie Rachel qui est venue la semaine dernière. Elle avait ramené un sèche-cheveux. Et en fait, les voltages en France et au Canada sont pas les mêmes. Et elle a mis son sèche-cheveux, elle l'a branché chez moi et le voltage est plus bas. Et en fait, ses cheveux marchaient au ralenti. Ah ouais, elle serait toujours en train de se sécher les cheveux. Mais elle s'est dit, il est fichu, il est cassé, voilà, le moteur est cassé. Elle n'est pas blonde pourtant. Mais elle s'est dit, je vais le jeter. Mais c'est une blonde qui lui a apporté la solution. Evelyne lui a dit, non, en fait, les voltages sont différents. Quand tu le branches ici, il marche moins bien, moins vite, parce que le voltage est moins fort, il y a moins d'énergie. Donc ne le jette pas, il va très bien. Et quelquefois, nous, on a un peu comme ce sèche-cheveux, on a l'impression de mal aller. Tout va lentement, on n'arrive à rien. On se dit, je suis bon à rien. Je suis bon à jeter, ça doit pas aller, c'est mon moteur qui ne va pas. Non, c'est même pas ton moteur qui ne va pas bien, c'est ta source qui ne va pas bien. Tu es obligé d'aller te brancher à la bonne source, au bon voltage. Et alors oui, tu peux partir en vacances, oui, tu peux regarder un film, oui, tu peux dormir, tu peux essayer de trouver du repos dans le naturel, et c'est bon, tu en as besoin, ton corps a besoin de repos, ton corps a besoin de sommeil. Mais plus que ça, tu as besoin, pour pouvoir être au maximum de ton potentiel, de te brancher à une source divine, de te brancher à la source de Dieu, d'aller dans la présence de Dieu et de profiter de ce sabbat de la grâce, de ce temps que Dieu a institué pour que tu mettes toutes les choses à part dans ta vie et que tu te consacres à lui, que tu te donnes entièrement à lui. Et là, vous me dites, oui, mais bon, moi, j'ai quand même plein de choses à faire. J'ai plein de ceci, plein de cela. Et puis, si je m'arrête, c'est 15 minutes que j'ai perdu dans ma journée. Et si je perds ces 15 minutes-là, ça me fait que je vais me coucher 15 minutes plus tard, blablabla. Et donc, ma réponse à ça, c'est que Dieu peut faire dans ta vie, en 5 minutes, ce qu'il va faire dans la vie de quelqu'un d'autre en une heure. Parce que si toi, tu n'as que 4 minutes à lui donner, mais que tu lui en donnes 5, et que l'autre qui avait 20 minutes, mais qui ne lui en donne que 15, tu glorifies plus Dieu avec tes 5 minutes, parce que tu lui as donné 4 minutes plus 1 minute en bonus, 1 minute qui t'était très importante, 1 minute qui t'était indispensable. Et ça me faisait penser à la parabole dans Marc, allez-y, Marc 12. Marc est parti de ma Bible. Reviens, Marc. J'ai les mêmes à la maison. Marc 12, 42. Donc, il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus appela ses disciples et il leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et en fait, vous voyez que avant, juste au début, c'est que les autres mettaient plus d'argent qu'elle. Ils mettaient vraiment comme des gros billets, des gros sous. Et elle, elle a juste mis un tout petit peu. Mais c'est le tout petit peu qui a touché le cœur de Jésus, parce que ce tout petit peu, à nos yeux, c'était tout ce qu'elle avait. Et tu peux donner ce tout petit peu de ce que tu as dans tes journées. Dieu sait que tu as plein d'enfants. Dieu sait que tu as une grande maison. Dieu sait que tu as des activités. Dieu sait tout ça. Dieu est au courant. Et Dieu ne veut pas que tu maltraites tes enfants pour soi-disant prier, etc., etc. Et que tes enfants aient aucune éducation. Tes enfants, quand on les croise dans la rue, on a envie de leur donner une pièce parce qu'on croit que c'est des petits mendiants. Non, Dieu veut que tu t'occupes de tes enfants. Dieu veut que tu prennes le temps de t'occuper de tes enfants. Et c'est pour ça, quand tu as 5 minutes dans ta journée, on commence bas quand même, hein, 5 minutes, que tu as 5 minutes dans ta journée et que c'est tes 5 minutes que tu donnes à Dieu au lieu d'aller voir tes mails, au lieu de passer un petit coup de fil, au lieu de je sais pas quoi faire. Je sais pas ce qu'on peut faire à part regarder ses mails et passer un coup de fil pour vous dire à quel point ma vie est palpitante. En tout cas, si vous donnez ces 5 minutes, votre nécessaire, pas un surplus de votre temps, mais ces 5 minutes nécessaires, ces 5 minutes, ces seules 5 minutes que vous avez, Dieu est honoré et Dieu peut te remplir comme tu peux pas l'imaginer pendant ces 5 minutes. Alors te limite pas avec une histoire de temps, parce que c'est ça la vraie grâce, c'est que on n'est plus sur un sabbat de mérite, un sabbat qui dure une journée de telle heure, etc. Non, Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde juste à ton cœur, et c'est la justice de Dieu de regarder à ton cœur, de regarder comme quelles sont tes dispositions, quelle est ton attitude, plus qu'à ce que tu as accompli en temps. Que oui, bah moi j'ai pris 15 minutes, donc en 15 minutes je devrais avoir 3 fois plus que l'autre qui a prié 5 minutes. Dieu ne raisonne pas comme ça. Dieu te dit, si tu avais 20 minutes et tu ne m'as donné que 15 minutes, tu as retenu 5 minutes, comme Ananias et Sapphira ont retenu de l'argent sur leur champ. Toi, pareil, tu retiens 5 minutes. 5 minutes où je voulais déverser sur toi une onction comme jamais. 5 minutes où j'avais une solution pour toi, mais tu as préféré garder ces 5 minutes pour toi. Dommage, dommage. Dieu ne va pas te frapper, d'accord? Dieu, tu vas pas tomber raide mort parce que tu as prié que 15 minutes alors que tu en avais que 20. Soyez rassurés. C'est juste que vous n'aurez pas la pleine provision de Dieu. Alors que l'autre qui a pris 5 minutes, mais comment c'est possible en 5 minutes que cette personne ait vécu tout ça? Parce que c'était juste ce qu'elle avait. Ces 5 minutes devant Dieu sont plus grandes, sont plus longues, sont plus importantes que tes 15 minutes. Et c'est pour ça, ne vous limitez pas. Je n'ai que 2 minutes. Je n'ai que 1 minute. Personne n'a juste 1 minute d'ailleurs dans sa journée, d'accord? Parce qu'il y a un concept qui s'appelle se lever tôt. Et donc, moi-même, dans ma journée, je me dis, mais tu sais, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Et puis là, je me dis, bah, fallait juste te lever un peu plus tôt. Et puis, bah, ça aurait été mieux, t'aurais gagné un petit peu de temps dans ta journée. Donc, c'est un super concept, se lever tôt. Et je me le prêche à moi-même. Lève-toi tôt, Annabelle. Lève-toi plus tôt. Et couchez-vous plus tôt. Donc Dieu est bon, Dieu travaille avec ce que vous avez. Comme cette femme a tout donné, donne-lui tout ce que tu as et Dieu va le transformer. Dieu va faire que tes 5 minutes, c'est les 5 minutes dont tu as besoin pour apporter une solution à tes enfants, une solution à ton mari, une solution à ton travail, pour que tu aies une pensée divine concernant une situation, un défi. Et ces 5 minutes où Dieu a déposé sa pensée en toi, c'est 5 minutes qui bouleversent ta journée. 5 minutes qui font que ta journée sera complètement différente. Tu as besoin de te déconnecter du naturel pour aller là où Dieu est, pour aller dans sa présence. Et pour que ton naturel après soit impacté, pour que ton naturel soit influencé. Mais les pensées de Dieu sont bien plus grandes, sont bien plus hautes, sont trop grandes pour notre intelligence. Et si on reste dans le naturel, si on essaye de réfléchir Dieu, de réfléchir la solution de Dieu, de réfléchir la mentalité de Dieu, juste en étant dans notre naturel, en réfléchissant intellectuellement, on n'aura aucune réponse. Et vous allez vous fatiguer, vous fatiguer, vous fatiguer à essayer de chercher des solutions, à essayer de chercher des réponses. Vous allez aller à droite, à gauche, téléphoner, etc. Et vous n'aurez pas cette solution. Dieu te dit juste, déconnecte-toi. Déconnecte-toi 5 minutes. Viens dans ma présence. Parce que mes pensées sont au-dessus de tes pensées. Et je vais te remplir. Je vais mettre en toi ma pensée divine. Une pensée que ton intelligence ne pourra pas deviner d'elle-même. C'est moi qui dois te le révéler. Mais je ne peux le révéler que si tu viens. Je ne peux te le révéler que si tu viens dans ma présence. Si tu veux manger chez moi, il faut que tu viennes chez moi. À moins que je t'apporte mon repas chez toi. Mais si tu veux venir profiter de... Bon, on va pas prendre ça comme exemple, c'est pas assez parlant. Mais par exemple, moi je vais aller en Gaspésie. J'aimerais aller en Gaspésie, j'aimerais voir les baleines de la Gaspésie. Bah, il y a des baleines. Et on peut me montrer des photos, on peut m'en parler, vous pouvez même y être allé et me dire à quel point c'était super, à quel point c'était beau, à quel point ceci, à quel point cela. C'est formidable, ça me donne juste encore plus envie d'y aller. Mais l'apogée, ce sera quand moi j'y serai, quand moi je vais vivre l'expérience, quand moi je vais voir les baleines, quand moi je serai là sur ce bateau en train de profiter de ce merveilleux paysage de la Gaspésie. Voilà, je serai en train de vivre l'expérience moi-même. Et vous, souvent, on vous parle de la présence de Dieu, on vous parle de cette intimité avec Dieu, on vous parle de ce que Dieu a pour vous, de ce que Dieu a en provision pour vous. Mais vous devez vous-même y aller. Vous devez vous-même y aller. Et il n'y a rien de mal, absolument rien de mal pour écouter des prédications, écouter des enseignements. Moi, j'aime écouter des enseignements, j'aime écouter un tas de prédications de plusieurs personnes différentes. Je connais un très bon site d'ailleurs, www.enseignemoi.com, des excellents enseignements. Et si quelqu'un a une pub... Et donc, j'aime écouter ces choses-là parce que c'est comme, oui... T'as envie d'aller quelque part et puis il y a des gens qui l'ont déjà exploré, des gens qui peuvent te dire comment c'était. Comme vous, vous pouvez me dire, oui, bah moi je suis allée en Gaspésie, il y avait vraiment un bon petit resto là, ouh là là, c'était bon. Voilà, c'est un bon conseil, je sais que quand j'irai en Gaspésie, je pourrai aller là-bas. Mais le mieux, c'est que moi je fasse mon expérience. Et les ministères sont là pour nous, pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse... nous se développer, apprendre plus, etc., etc., mais que pour surtout qu'on puisse nous-mêmes le vivre. Des gens ont été avant nous explorer des endroits dans la parole de Dieu, ont exploré des choses dans la présence de Dieu, et leur mandat, c'est de pouvoir nous le partager pour que nous aussi on puisse y aller. Ils y sont allés comme des éclaireurs, mais aujourd'hui c'est à nous d'y aller, à nous d'entrer dans ça, à nous de nous saisir de ces promesses-là. Mais ces promesses resteront juste quelque chose de très vague, quelque chose de très lointain, quelque chose que vous désirez peut-être, et certains vous le désirez même pas tellement ça me semble loin. Mais Dieu vous appelle à vous saisir de ça. Dieu vous appelle à commencer à entrer dans sa présence. Et j'ai dit 5 minutes, c'était pas beaucoup. Et pour de vrai, 5 minutes, c'est pas beaucoup. 5 minutes, c'est pas grand-chose dans votre journée. Comme vous pouvez voir, 5 minutes, comment on peut perdre ça vite fait. T'es là, assis sur ton canapé, tu commences à penser à quelque chose, hop, 5 minutes sont passées, 5 minutes où t'as pensé à tout et n'importe quoi, où t'as rien fait spécial. Donc ces 5 minutes-là, t'aurais pu les utiliser juste pour passer un temps avec Dieu. Et après, souvent, le problème aussi, c'est qu'on est complexé, je dirais, parce qu'on a l'impression qu'il y a tout un tas de choses, pas complexé en fait, mais qu'on se met des barrières parce qu'on voit les gens prier d'une certaine manière, on pense que la prière ça doit être d'une certaine façon, on pense que, je sais pas, il faut s'allonger, il faut crier, il faut pleurer, il faut être dans le noir, bref, tout un tas de choses. Mais vous pouvez prier très simplement, vous pouvez prier simplement à votre table, assis sur votre chaise, et prier, c'est avoir une relation avec Dieu, avoir une communion, lui parler, qu'il vous parle et qu'on se comprenne. Vous pourriez l'apprendre si vous venez à l'IBEM dès la rentrée prochaine. On fait 2 sessions sur la prière. Donc c'est difficile de vous faire un condensé de 24 heures sur la prière, mais c'est ce qu'on voit à l'IBEM. Donc je vous encourage tous à venir nous rejoindre à l'IBEM pour pouvoir développer cette vie de prière. 2e pub. Mais vraiment, parce que 24 heures sur la prière, c'est vrai qu'en 5 minutes c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est une vraie invitation pour vous, pour l'IBEM. C'est que il n'y a pas de rituel, il n'y a rien de spécial à faire. Je vais prendre pour exemple mon mari. Mon mari a une façon de prier qui lui appartient, une façon de prier bien à lui. Et moi, je me disais, bah moi, je suis un peu moins expressive quand je prie. Et je peux dire comment ? Ok, Jérémy aime prier allongé. Aime prier allongé, la musique super fort, etc. Et puis tu l'entends dans toute la maison, dans tout le voisinage, etc. Et d'ailleurs, une fois qu'on habitait à Paris, on avait une petite maison et je me disais, c'est bon, c'est pas grave, elle a écrit dans sa chambre. Mais le problème, c'est que je suis sortie et j'étais dans la rue et en fait, je l'entendais dans la rue en train de crier, en train de parler en langue comme un fou. Je dis, oh waouh, c'est ce que les gens entendent à deux maisons, tu sais, c'est... Et tu vois les gens qui passent, hop, je traverse là parce que c'est un peu bizarre ce vers cette maison là. Donc c'est comme ça que lui prie. Moi j'aime prier juste assise sur un bout de chaise au bout de ma table, mais je peux aussi regarder un film sur un bout de chaise au bout de ma table, pourtant j'ai un canapé, mais c'est comme ça, moi j'aime bien être comme ça, lui il aime bien être complètement affalé, etc., dans le noir, la musique à fond, il aime se faire remarquer en fait, je pense que c'est ça. Tu sais, Dieu t'entend même si tu ne cries pas. Ça fait longtemps que je voulais lui passer ce message-là. Je sens mieux. Donc soyez décomplexés, priez comme vous priez, parlez à Dieu comme vous lui parlez-lui, c'est pas la peine d'avoir des mots super compliqués, de dire des choses que vous ne comprenez même pas, parce que vous avez entendu des phrases toutes faites, et moi j'entendais des gens qui priaient, c'était super beau tout ce qu'ils disaient, t'as l'impression qu'ils faisaient presque des rimes, je disais mais comment ils arrivent à prier comme ça, et du coup je voulais pas prier dans mon église parce que tout le monde avait l'air de prier en vers, et moi je me dis, non, moi j'arriverai pas à prier en vers, et puis pour de vrai ils disaient vraiment des choses que je comprenais absolument pas. Mais soyez simple, Dieu veut vous, juste vous, il veut pas votre talent littéraire, il veut pas votre des poèmes, etc. Il veut que vous puissiez lui déverser votre cœur de manière authentique, de manière sincère. Il y en a, ils parlent, voilà, tu vois là, Seigneur, voilà, ça va pas. Bah voilà, parle comme ça. Il y en a d'autres, oui, Seigneur, aujourd'hui, tu vois, ma forme morale est plutôt au beau fixe. Bah si vous parlez comme ça, parlez-lui comme ça. Mais essayez pas d'imiter quelqu'un, parce que c'est sûr, ça a mal tourné. C'est difficile de faire illusion longtemps. Vous pouvez faire semblant, même devant les gens, le dimanche matin, alléluia, gloire à Dieu. Et puis, tu sais, ça dure juste 2 heures. Donc pendant 2 heures, tu peux faire semblant d'être quelqu'un. Mais Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu sait comment il t'a créé, et Dieu t'aime. Dieu t'aime avec tes traits de personnalité. Dieu aime ton humour. Dieu aime mon humour. Je le sais. Si vous l'aimez pas, bah, c'est pas grave, Dieu l'aime. Et Dieu vous a créé comme ça et m'a créé comme ça. Il nous a tous créés différents, mais c'est pas pour autant qu'il nous a créés pas à son image. Nous sommes tous créés à son image, mais de manière différente et de manière complémentaire. Dieu a différentes facettes. Et comme Pasteur Michael en avait parlé, oui, Dieu est un Dieu puissant, un Dieu qui mérite le respect, un Dieu qui mérite la révérence. Il s'est révélé comme un Dieu puissant dans l'Ancien Testament, mais il s'est aussi révélé comme un Dieu doux, un Dieu d'amour. Et c'est toutes ces facettes de lui qui sont dispersées au travers de nous. Moi, je peux plus peut-être refléter l'amour de Dieu, et puis Jérémy peut plus refléter la dureté, l'autorité. Oui, parce que ça aussi, les gens trouvent que j'ai l'air plus sympathique. C'est la fête des mères, hein. Je me fête une bonne fête. Donc, pour en revenir au sabbat, puisque c'est là que nous étions, c'est que Jésus ne s'est lui-même pas limité au sabbat, dans le sens où c'était pas on ne fait rien, on fera absolument rien, on va juste s'asseoir dans un coin, les amis, venez avec moi, les disciples, on va s'asseoir, puis on ne dira rien, puisque c'est le jour du sabbat. Vous voyez que Jésus a fait des guérisons le jour du sabbat. Il a guéri l'homme à la main sèche, et puis la femme courbée. Et les religieux se sont complètement, ils étaient fous de rage. Comment est-ce que tu peux faire ça le jour du sabbat? Comment est-ce que tu peux oser, oser manifester l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que tu peux oser manifester la parole de Dieu? Comment tu peux oser aimer les gens le jour du sabbat? Non, dans le cœur de Dieu, le jour du sabbat est un jour pour le servir. C'est le meilleur jour pour le servir. Et comme je vous l'ai dit, le sabbat ne se limite pas à un seul jour. Aujourd'hui, le sabbat est disponible tous les jours de votre vie. Donc tous les jours de votre vie, vous êtes appelés à faire les œuvres que Dieu vous appelle à faire, à manifester les œuvres de Dieu, la guérison, la délivrance et tout le kit qui va avec. Mais le vrai sabbat, Jésus a voulu... Enfin, c'est pas dit exactement comme ça, mais il y avait ce sabbat religieux que les religieux ont imposé, tu feras rien, c'est pas bien d'avoir guéri, blablabla, blablabla. Et juste après, vous pouvez voir dans Luc 6, 12, il a guéri, les gens sont pas contents. Et là, Jésus nous montre le sabbat pour nous aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Encore une fois, toute la nuit, ça ne veut pas dire que si vous ne priez pas toute la nuit, vous n'avez pas passé un vrai temps dans la présence de Dieu. C'est faux, d'accord? Mais c'était pour dire, c'était toute la nuit, de tout son cœur, de tout votre cœur, tout ce que vous avez, toute votre nuit à vous, ça peut être vos 5 minutes. Et que là, le vrai sabbat, il en ressort une réponse. C'est pas juste un rite religieux avec des préceptes et des principes religieux. Vous devez obtenir une réponse. Vous devez avoir entendu Dieu et vous devez avoir parlé à Dieu. Et là, quand Jésus a prié, qu'est-ce qui s'est passé juste après? On voit que c'est là où il a fait le choix de ses douze disciples. C'est là qu'il a eu, il a appelé ses 12 et c'était un événement quand même important. C'est là où 12 personnes ont été appelées, où 12 personnes ont eu leur vie complètement bouleversée, complètement défiée, complètement métamorphosée. Et puis il y a des gens, il y avait Judas entre autres qui allait trahir Jésus, qui était important dans ce plan. Et puis il y avait aussi Pierre qui on voit un pêcheur d'hommes, un sauveur, un prédicateur de feu, etc. Et c'est là qu'il a été appelé dans les 12 que Jésus a fait son choix, mais c'était un choix divin. Mais Jésus a passé du temps dans la prière, Jésus a passé du temps dans la présence de Dieu pour avoir une réponse divine. Et d'ailleurs, vous voyez que après, les disciples ont fait un choix d'un autre disciple, de Matthias, en tirant au sort. Vous voyez juste les deux choix. Il y avait un choix divin. Je vais dans la présence de Dieu. Dieu me parle. Je donne, je fais et je dis ce que Dieu m'a dit de faire. Et puis, il y a eu le choix humain. Le choix de Matthias, un tirage au sort. Matthias devait sûrement être un bon gars. Mais il ne faisait pas, ce n'était pas la réponse à un choix divin. Et vous êtes un choix divin de Dieu. Dieu a pris le temps de vous créer, Dieu a pris le temps de faire qui vous êtes aujourd'hui, vous êtes un choix divin. Mais vous avez vous-même des choix à faire dans votre vie, vous avez des décisions à prendre, des décisions importantes. Et il y a des choses, vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper en pensant que vous n'avez pas besoin d'aller dans la présence de Dieu, que votre intelligence, votre propre sagesse est suffisante. Vous êtes en train de vous séduire vous-même. Vous avez besoin de ce toucher divin. Vous avez besoin de cette intervention divine dans votre vie pour faire ces choix divins. Comme Jésus a eu une réponse, vous aussi, vous allez avoir une réponse quand vous allez aller dans la présence de Dieu. Et Moïse a dû s'éloigner. Moïse, finalement, une fois qu'il a délégué, il a pu prendre du temps pour aller sur la montagne. Il a rencontré Dieu, il a eu les 10 commandements. C'est quand même un moment aussi important dans l'histoire. Et vous aussi, vous devez écrire votre histoire. Mais votre histoire céleste, votre histoire, votre vocation céleste ne pourra s'écrire. Elle est déjà écrite, mais dans votre vie, elle ne pourra s'accomplir que si vous prenez le temps d'aller sur la montagne. Que si vous prenez le temps d'aller prier, d'aller dans la présence de Dieu. Que si vous prenez le temps de prendre votre parole, de savoir ce que Dieu dit, parce que oui, vous pouvez passer du temps dans la présence de Dieu, en tout cas ce que vous pensez de la présence de Dieu, à fredonner, à dire des choses, etc. Mais si la parole n'est pas ferme en vous, Dieu pourra vous parler, mais vous ne le comprendrez peut-être pas, parce que c'est comme si moi je partais en Chine, et puis que les gens me parlent en chinois, ben ils peuvent me dire des choses super intéressantes, mais n'empêche que si je connais pas la langue, et je ne suis pas chinoise, et je suis coréenne, mais même si on me parlait en coréen, et ben je comprendrais absolument rien. Le docteur David Yonggi-cho pourrait prophétiser sur ma vie, dire des choses extraordinaires. Et ben s'il me parlait en coréen, ben je comprendrais pas, je saurais pas ce qu'il me dit. Mince alors. Et quand Dieu vous parle, quelquefois vous passez à côté de ce qu'il vous a dit parce que la parole n'est pas une fondation dans votre vie et qu'il vous ait dit ça ou autre chose, finalement ça n'a pas une grande différence parce que vous ne savez pas reconnaître la voix de Dieu, parce que vous ne connaissez pas sa langue, parce que vous n'avez pas pris du temps dans sa présence, vous n'avez pas pris du temps dans la parole. Et passer du temps, comme on dit, dans la présence de Dieu, passer du temps à prier, c'est aussi passer du temps dans la parole. Parce que quand tu lis, la Bible est vivante, la Bible est vivante, c'est pas un livre comme n'importe quel autre livre. La Bible te parle, Dieu te parle au travers de sa parole. Et Dieu veut te parler au travers de sa parole. Il veut pas seulement que tu vives des expériences extraordinaires, etc., où t'es par terre allongé dans le noir en train de crier. Il veut aussi que tu passes du temps dans la parole. Il veut te parler de cette manière-là. Parce que c'est de cette manière qu'il s'est révélé à nous. Et c'est de cette manière qu'on peut dire que Dieu est stable, que Dieu est fiable, parce que la parole n'a pas changé, la parole est toujours là, de génération en génération. Moi, je peux vous dire quelque chose et je peux le transformer, je peux le modifier, je peux l'abîmer même, je peux augmenter, diminuer, etc. Mais la parole est là, la parole n'a pas changé, la parole est la preuve que Dieu est le même hier et aujourd'hui, que ce qu'il a fait hier, il le fera aussi aujourd'hui dans ta vie. Donc, mais tout ça dans cet aspect du sabbat aussi, c'est que Jésus, et tu as une réponse, comme Moïse a une réponse, Jésus a une réponse, c'est qu'il y a un équilibre. Tu pars pour mieux revenir, tu vas te mettre à part, tu montes sur la montagne, mais il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes. Parce que si tu ne reviens pas, c'est juste un abandon ou une fuite. Tu es un déserteur. Dieu t'appelle à avoir une influence ici sur cette terre. Dieu veut que tu influences, Dieu veut que tu sois le sel. Tu es le sel. Mais si tu te retires, tu vas influencer personne, tu vas amener ta saveur nulle part. Donc oui, tu te retires, mais toujours pour mieux revenir. Tu vas te recharger, tu vas apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans la présence de Dieu. Tu vas apprendre les réponses, les solutions, de la parole de sagesse, une parole de connaissance pour quelqu'un. Tu vas apprendre les rêves, les passions que Dieu a pour toi. Mais après, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes pour pouvoir les accomplir. Sinon, ça veut dire que t'es mort. Mais sinon, à part mort, c'est peut-être extrême, mais si t'es pas mort, en tout cas, c'est juste que t'as fui, t'as abandonné ta course, tu ne fais pas ce pourquoi tu es appelé. La présence de Dieu est formidable. La présence de Dieu est fantastique. Et ça ne devrait pas être notre résidence secondaire. Ça devrait être votre résidence permanente. La Bible dit demeurer dans sa présence. Mais on demeure dans sa présence, mais pour mieux être envoyé après. Et puis on revient à chaque fois. Mais on revient à la maison mère, d'accord? La maison mère n'est pas le monde. La maison mère n'est même pas ta famille dans le naturel. La maison mère n'est pas ton ministère. Ta maison mère est dans la présence de Dieu, auprès de Dieu, avec lui. C'est là ta maison, ton adresse permanente. C'est là que tu habites, c'est là qu'on doit te trouver. Parce que tu es un citoyen du ciel. Tu n'es plus juste un être naturel, tu es un être spirituel. Et parce que tu es un être spirituel, tu as une adresse spirituelle aussi. Tu as une maison spirituelle. Donc, c'est toujours pour mieux passer, genre de rien. Donc, les bienfaits du sabbat, on l'a vu, ne pas rester dans le naturel, ne pas rester bloqué avec notre petite intelligence, notre petite sagesse, nos petits raisonnements, oui, mais je pense que si je fais ci, que je fais ça, blablabla, blablabla. Dieu est tellement plus grand que ça. Dieu est capable de faire des choses inimaginables. Imaginez, je suis née en Corée, dans un endroit plus ou moins vaste, vous voyez, on sait même pas exactement où. Et on espère savoir la date exacte, mais c'est pas sûr non plus. Et aujourd'hui, je me retrouve ici au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années? Comment est-ce que c'était possible que finalement je sois abandonnée, adoptée pile dans cette famille-là et que j'habite pile en France dans cette ville-là, que je puisse rencontrer Jérémy qui est devenu mon mari, que bref, on se retrouve tout le temps à des endroits clés stratégiques pour pouvoir aller, pour pouvoir franchir les étapes au fur et à mesure de notre vie. Comment est-ce que j'aurais pu faire ça par moi-même, même si quelqu'un avait voulu organiser ma vie, ça ne se serait jamais jamais aussi bien passé, ça n'aurait jamais été aussi bien orchestré. J'avais besoin et vous avez besoin que Dieu orchestre votre vie, que Dieu mette en place les choses pour vous. Et vous avez besoin parce que oui, non, mais moi je suis capable de gérer ma vie là. Je suis capable de faire ça, je suis capable de savoir que si je me lève à cette heure-là, bah, je pourrais aller plutôt faire au sport, puis après je pourrais commencer plutôt le travail, puis après ceci, puis cela, puis tu vois, ça me laissera du temps pour faire. Si c'est bien d'avoir une discipline de vie, mais tu fais juste avec les choses que toi tu vois. Tu es en train de composer ta journée, et bien plus que ta journée pour certains. Il y en a, vous êtes en train de composer votre vie avec les éléments visibles, avec ce que vous voyez devant vous. Mais il y a tout un tas de choses que vous ne voyez pas, un tas de choses que vous ne connaissez pas, un tas de choses qui ne vous ont pas encore été révélées. Et Dieu veut utiliser ces choses-là pour votre vie. Mais si tu te limites à utiliser les choses qui sont devant toi, tu auras toute ta vie ces mêmes choses devant toi. Tu n'auras pas plus et pas moins peut-être. Et pas moins, ça te rassure, mais pas plus, c'est quand même, c'est limitant, limitatif. Une limite, ça apporte une limite. Wow. Vous voyez, si j'avais préparé mon mot, par exemple, ben, j'aurais su vous le dire aujourd'hui. Je sais même pas. Bref, et... Ça vous met une limite, une barrière, quelque chose au-delà vous pouvez pas passer. Là, oh bah, à partir de là, si je marche, je vais tomber. C'est vrai que si je marche, là, je vais tomber pour de vrai par contre. Mais si Dieu me disait, là, de manière extraordinaire, et j'espère qu'il va pas me le dire, non mais vas-y, marche, tu vas voir, tu vas pas tomber. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose par la foi, quelque chose d'extraordinaire dans le sens de pas normal, de pas ordinaire, qui ne suit pas la logique des choses, comme de franchir le pas, eh bien là c'est le moment où je vais le faire, le moment où je crois que les choses invisibles, les choses qui ne me sont pas révélées vont se mettre en place, qu'il y a tout un tas de choses qui va faire que non, Dieu ne me parle pas pour que je tombe et que je me casse une jambe. Non, Dieu me parle pour me dire d'avancer parce que il y a une étape à franchir et qu'il faut que je prenne ce pas de la foi. Mais quand Dieu ne me le dit pas, je ne le fais pas parce que je ne tente pas Dieu en vain et parce que je ne suis pas stupide. Et donc, non, je ne mettrai pas mon pied pour tomber, pour vous faire l'illustration en complet. Nous sommes appelés à plus que de l'entretien. Comme je vous disais, Moïse, il répondait juste à des besoins un par un. Ok, ton problème, vas-y, ok, voilà, c'est réglé. Oh, ton problème, ok, c'est réglé. Mais il y avait plus que ça pour lui. Et pour vous aussi, il y a plus que ça, juste de l'entretien pour que ça aille bien. Comme quand tu fais des rénovations dans ta maison et que tu te concentres sur tes toilettes. Tu te concentres seulement sur tes toilettes parce que les toilettes, la tuyauterie, la plomberie, etc. Alors que ton but, c'est d'agrandir ta maison. Ton but, c'est de faire une expansion. Ton but, c'est de rajouter des chambres. Ton but, c'est que ta maison soit une maison familiale. Une maison où il fait bon vivre. Une maison où tout fonctionne. Mais t'es là bloqué sur un problème. Bloqué sur la plomberie dans ta salle de bain et tu la refais sans cesse et 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 tu es juste en train de maintenir et tu perds de vue tout ce que tu avais à faire. Et souvent dans notre vie, on est juste en train de maintenir et d'entretenir. Mais Dieu nous appelle à dominer. Dieu nous appelle à grandir. Dieu nous appelle à nous étendre, à nous étendre. Étends l'espace de ta tente. Dieu nous appelle à ça, pas juste à tenir tout là pour pas que ça tombe. Non, Dieu veut que vous soyez solide pour que vous puissiez vous agrandir, que vous alliez de plus en plus loin. Et donc, ah, le téléphone me dit que c'est fini. Je peux finir ? Vous êtes appelés, Paul disait, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et vous dites, oui, mais courir, c'est fatigant. Courir, c'est difficile. Comment est-ce que je peux faire ça? La Bible, la parole vous donne encore une réponse. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les ailes. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et vous savez, dans ce verset-là, c'est dit, ils renouvellent leur force. C'est renouveler dans le sens de changer en mieux, d'avancer, de redoubler. C'est pas juste maintenir, comme on a vu. C'est augmenter. Oui, tu répares. Oui, Dieu restaure. Dieu donne, mais encore en plus à chaque fois. Et à chaque fois que tu fais un pas, tu construis plus ta maison spirituelle. Tu construis ta destinée. Tu fais un pas pour courir ta course, ta vocation céleste. Parce que tu as appelé pour une vocation céleste. Ta famille fait partie de ta vocation céleste, si tu le fais avec une vision céleste, si tu le fais avec une attitude divine, si tu prends le conseil de Dieu, si tu te rends compte qu'éduquer tes enfants, c'est pas seulement leur donner à manger, leur donner des vêtements, etc. Éduquer tes enfants, c'est éduquer une génération de jeunes hommes et de jeunes femmes qui vont apporter un réveil, une génération qui va élever les standards, une génération qui va parler de Jésus, une génération qui va faire, comme on l'a dit, que les chrétiens ne se feront pas piétiner, une génération forte dans la parole de Dieu. Et là, oui, tu élèves tes enfants, mais tu as un but divin et tu es en train d'accomplir ta vocation céleste en tant que mère et en tant que père. Et aussi dans 1 Pierre 5:7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et aujourd'hui, c'est un appel que je veux vous faire. Oui, tu es fatigué, mais tu n'es plus fatigué parce que tu sais que maintenant, tes forces sont renouvelées, que quand tu vas courir, tu ne te fatigueras pas parce que tu te confieras en l'Éternel, parce que tu auras la bonne source, parce que tu vas te brancher au bon endroit, pas comme le sèche-cheveux de Rachel, et que tu n'es pas bon à acheter à la poubelle. C'est juste que tu ne t'étais pas branché au bon endroit pour avoir la pleine puissance en toi. Mais aujourd'hui, tes forces sont renouvelées. Aujourd'hui, tu reprends ta course si tu t'y étais arrêté. Aujourd'hui, tu prends le rythme de Dieu. Tu te confies en Dieu. Tu crois en lui. Tu cherches, tu poursuis. Tu as soif de sa présence pour obtenir ce qu'il a pour toi. Et comme la Bible nous dit, tu te décharges. Tu te décharges sur lui de tous tes soucis, de tous tes fardeaux, de tout ce que tu crois qui t'empêche de courir ta course. Et le mot décharger, c'est le même mot qu'on voit dans Luc 19, quand Jésus va arriver sur l'âne, il est dit, ils amenèrent à Jésus l'âne sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et ils firent monter Jésus. Ils jetèrent leurs vêtements. Littéralement, ils ont jeté leurs vêtements. Et aujourd'hui, c'est l'appel que je veux vous faire pour que vous ayez une course libre. Que vous soyez comme ce soldat qui ne s'encombre pas des choses de la vie, mais juste de l'armure du croyant dont la Bible nous parle, mais que vous encombriez plus des choses de la vie, des choses qui ne sont pas utiles pour votre course, de tous vos fardeaux, de tous vos soucis, de tous vos freins, de tout ce qui vous empêche d'avancer, comme ces gens ont littéralement jeté leurs vêtements. Ne jetez pas vos vêtements, mais gardez vos vêtements, mais ils ont littéralement jeté leurs vêtements pour que Jésus s'assoie dessus, pour que Jésus sois dessus, jetez vos soucis, jetez vos fardeaux, jetez vos craintes et laissez Jésus passer dessus. Laissez Jésus les prendre, laissez Jésus s'asseoir dessus parce que vous n'en avez pas besoin et vous n'êtes pas capable de pouvoir gérer avec, vous n'êtes pas capable de pouvoir les enlever vous-même. Mais vous avez la possibilité et la décision de vous décharger pour que lui prenne soin de vous. Et c'est pour vous, pour votre bien-être, mais pour que vous puissiez courir votre course et que plus rien ni personne ne puisse vous arrêter. Et je voudrais juste finir en vous le redisant, que Dieu renouvelle vos forces. Dieu renouvelle vos forces aujourd'hui. Si l'équipe de la louange est disponible, je veux juste prier un moment avec vous et déclarer la parole sur vous et avec vous. Parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui se sont arrêtés. Plusieurs qui se sont arrêtés dans leur course. Plusieurs qui se sont arrêtés à cause de faux raisonnements. Parce que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de la vie. Fatigué de combattre. Mais vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Vous n'avez pas à combattre contre vos mauvaises relations. Vous n'avez pas à combattre contre la maladie. Car Jésus est déjà venu pour vous guérir. Il l'a déjà accompli. Vous avez juste à vous décharger de vos craintes, à vous décharger de vos mauvaises mentalités et à les jeter, et à laisser Jésus en prendre soin. Vous pouvez tous vous lever. Comme Jésus l'a dit, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour guérir les cœurs brisés et pour annoncer la délivrance aux captifs. Et aujourd'hui, il y en a qui sont captifs dans leur mentalité, captifs dans leurs pensées, captifs dans la fatigue, captifs de leur propre vie, captifs de leur propre activité, captifs de leur incapacité, captifs de tout ce que vous avez embarqué avec vous dans votre vie. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, décharge-toi, décharge-toi, et je prends soin de toi maintenant. et je renouvelle tes forces. Oh, merci Seigneur, parce que oui, tu as dit que si on se confie en toi, tu renouvelais nos forces. Tu renouvelais nos forces. Tu nous en donnes encore plus, pour que nous n'abandonnions pas notre course. Parce qu'il y a tout un combat, il y a toute une course, encore des perdus dans cette ville, encore des gens à atteindre. Et tu nous as donné tout un héritage pour qu'on puisse en profiter, pour que nous-mêmes nous puissions être forts, pour que nous-mêmes nous puissions nous fortifier, que nous-mêmes ne soyons pas à terre et qu'on puisse tendre la main à ceux qui sont perdus, tendre la main aux désespérés, tendre la main à ceux qui n'ont aucun espoir. Mais aujourd'hui, je te demande de venir rafraîchir ton peuple, de venir renouveler leur force, qu'alors qu'ils courent, ils ne se fatiguent point, qu'ils ne se fatiguent point avec des mentalités contraires à ta parole, qu'ils ne se fatiguent point en marchant avec leur propre force, qu'ils ne se fatiguent point en se limitant par des incapacités, parce que quand tu renouvelles leur force, tu renouvelles leur mentalité. Tu renouvelles, Seigneur, leurs pensées. Tu renouvelles leur intelligence. C'est parce que quand je suis dans ta présence, je reçois ton conseil divin. Je reçois, Seigneur, je reçois ta pensée divine. Je reçois tout ce que tu as pour moi. Je reçois ton rêve. Je reçois ta passion. Je reçois, Seigneur, et je vois comme toi tu vois. Et rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter dans ma course. Que ce soit votre cri aujourd'hui, rien ne peut m'arrêter dans ma course. Je continue de courir et je ne me fatigue point. Car Dieu est celui qui me renouvelle. Car Dieu est celui qui me relève aujourd'hui. Car Dieu est celui qui fait que je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je refuse d'abandonner. Parce que mon père n'est pas sauvé, parce que ma mère n'est pas sauvée, parce que mon frère n'est pas sauvé, parce que mon voisin n'est pas sauvé. Je refuse d'abandonner, je refuse d'abandonner. Et je vais annoncer ta parole, je vais annoncer ta parole aux quatre coins de la terre, à toutes les nations, ta parole sera annoncée. Parce que nous n'allons pas renoncer à cause du découragement. Nous allons faire ce pourquoi tu nous as appelés, annoncer une bonne nouvelle. Déclarer la délivrance aux captifs, guérir les cœurs brisés, annoncer la guérison à ceux qui sont malades, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous allons faire ce à quoi tu nous as appelés, Seigneur, et nous t'abandonnerons pas, parce que tu es celui qui renouvelle nos forces. Tu es celui qui peut faire en 5 minutes, qui peut tout changer en 5 minutes. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Une minute dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. En une minute, tu es capable d'accomplir un vrai miracle dans ma vie. En une minute aujourd'hui, tu es capable d'accomplir un vrai miracle. Le miracle de la guérison, le miracle de la joie, le miracle de la paix. Toutes ces choses sont disponibles maintenant. Allez juste épuiser. Une minute, c'est suffisant. Une minute, c'est suffisant.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, en tout cas, je crois que le Saint-Esprit a parlé à notre sœur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dimanche passé, j'ai prêché sur comment prendre notre envol. Et une des choses que, en tout cas, je croyais vraiment que l'Esprit de Dieu mettait l'accent, c'était on devait se décharger sur lui. Et je crois que le Seigneur met encore son spotlight divin, cette lumière du ciel sur ce besoin qu'on a. Certainement, il y a des gens qui ne l'ont peut-être pas fait. Et puis notre sœur Annabelle a senti vraiment le besoin de nous exhorter encore une fois à se décharger sur lui, de se confier en lui, parce que le Seigneur veut renouveler nos forces. Amen. Je crois vraiment, c'est une confirmation du message de la semaine passée. Et il y a quelques semaines, j'avais été à Montréal, on avait écouté notre sœur Annabelle prêcher ce message où elle dénonçait le péché. C'était intense. Il y a des moments comme ça où le Saint-Esprit nous pousse à prêcher un message intense. Il y en a d'autres, des fois, Seigneur, il veut juste souffler sur nous, nous rafraîchir et nous rappeler des choses. Des fois, c'est dans l'humour, peu importe. Mais je crois que notre sœur a été sensible à l'Esprit de Dieu pour le besoin de cette maison. Amen. Et notre besoin, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous révèle? On a besoin de se décharger sur Dieu. On a besoin de laisser notre fatigue de côté, être renouvelé et se connecter avec l'Esprit de Dieu. Croyez-vous que c'est de Dieu, ça? On a besoin d'être connecté. Ça veut dire que cette semaine, vous avez besoin de faire un changement. La semaine passée, vous avez entendu ce message en partie, les Brites, mais peut-être vous n'avez pas passé à l'action. Donc, cette semaine, je veux vous encourager. Allez vous connecter avec l'Esprit de Dieu. Passez du temps dans sa présence. Cherchez la présence de Dieu. Soyez saturés de sa présence et vous allez être renouvelés dans vos forces. Et dimanche prochain, on va vous retrouver remplis d'énergie, mais pas l'énergie parce que vous êtes allés au gym, mais c'est l'énergie du Saint-Esprit qui est en vous. La force surnaturelle que vous avez besoin pour avancer. Parce que l'ennemi, lui, veut vous empêcher d'avancer, mais si vous marchez dans l'obéissance, vous allez être revêtu de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va vous donner la vitamine que vous avez besoin pour avancer. Amen. Donc, gloire à Dieu pour ça. Je vais prier. Et j'aimerais ça faire une dernière chose en terminant. Je sais que c'est la fête des mères, puis il y en a plusieurs d'entre vous. Vous avez besoin de quitter pour aller manger avec vos mères et les honorer. C'est merveilleux. Et juste une chose, on a Tristan Pelletier qui va être à la porte pour remettre à chaque dame à l'église une fleur. On veut vous encourager d'aller les chercher. Et Martine aussi va être là pour remettre. Mais j'aimerais juste ça terminer avec un mot de prière pour vous, pour les mamans, pour les femmes en général de cette assemblée. Et on va terminer avec un chant. Père éternel, je viens devant toi aujourd'hui. Je veux te remercier premièrement pour ton Saint-Esprit qui nous démontre les choses qu'on a besoin de faire. Merci, Seigneur Dieu, pour cette parole qu'on reçoit aujourd'hui. On veut se décharger sur toi de tous nos soucis, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'on peut se connecter avec toi et recevoir du ciel la force qu'on a besoin pour avancer. Nous ne sommes pas tout seuls, mais nous sommes accompagnés, nous sommes en toi et nous recevons aujourd'hui, par la foi, la force du Saint-Esprit. La joie du Seigneur est notre force. Et nous recevons aujourd'hui ce message qui a été communiqué dans la joie, dans la joie. Et aujourd'hui, nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous te remercions pour les projets que tu accomplis dans nos vies. Et nous te louons. On a pris au nom de Jésus. Et je décrète sur chaque tête, spécialement aujourd'hui, pour les femmes dans l'assemblée, je décrète ton shalom de Dieu. Ton shalom, Seigneur. Rien de manquant, rien de brisé. La bénédiction qui repose sur chaque tête. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur une dernière fois? Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.